Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos puisqu'il est 22h. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Il ne peut pas y avoir les premiers vaccins en Île-de-France et que notre campagne de vaccination ne commence que dans 8 jours. Nous souhaitons qu'elle commence tout de suite.
Christian Estrosi veut le vaccin tout de suite dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs élus du Grand Est réclament des reconfinements locaux après les fêtes. Conseil de défense demain matin à l'Élysée qui consulte à tout va avant d'annoncer de nouvelles mesures. Car la situation sanitaire continue de se tendre dans les hôpitaux et en réanimation. Nous verrons aussi pourquoi la France vaccine encore au compte-gouttes quand nos voisins européens passent eux la surmultiplier. Dans ce journal également, l'hommage national aux 3 gendarmes tués la semaine dernière par un forcené dans le Puy-de-Dôme. Ils ont été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. La mort aussi ce soir de 3 soldats français au Mali, alors que le pays vient de voir mourir du Covid, celui que tout le monde voyait devenir son futur chef d'État, l'ex-co-otage de Sophie Petronin, Soumaïla Cissé. On verra avec Didier François les répercussions que peut avoir ce décès dans la région. On fera aussi un point sur les suites de la tempête Bella, 9 départements toujours en vigilance orange, sur le chômage qui repart à la hausse après 6 mois de baisse, et puis sur la désillusion du PSG handball, éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions ce soir par le Barça. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag, le patron d'Agnos avec nous ce soir. Ces gels hydroalcooliques sont entrés dans notre quotidien en cette année de pandémie. Ce sera juste après la bourse avec Claire Lemaître et vos prévisions météo pas folichonnes encore pour demain avec Anissa.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après le reconfinement du mois d'octobre, va-t-on vers un re-reconfinement ? Conseil de défense demain à l'Élysée, alors que le nombre d'hospitalisations et d'entrées en réanimation est toujours à la hausse et que de nombreux élus locaux, je vous le disais, notamment dans le Grand Est, appellent l'État à réactionner ce levier, au moins au niveau local, pour inverser les courbes. Adrien Beck, on n'aura sûrement pas de nouvelles annonces dès demain, mais l'exécutif, c'est très clair, a entendu ses inquiétudes.
Oui, inquiétude qui remonte d'ailleurs jusqu'au sommet de l'État. Circulation du virus qui augmente dans les Ardennes, en Meurthe-et-Moselle, pour ne citer que ces 2 départements, mais aussi du côté de Nice. Ces dernières heures, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est donc entretenu par téléphone avec plusieurs élus du Grand Est. Jean Castex devrait faire de même. Alors, est-ce que ça préfigure des reconfinements locaux ? Eh bien, l'hypothèse est sur la table du gouvernement, d'autant que cette fois, certains élus le demandent publiquement, avant même de voir le très redouté effet Noël, ce rebond du nombre de contaminations qui n'est pas encore mesurable. Mais Emmanuel Macron, demain, devrait se faire présenter les premières modélisations en vue du 7 janvier. Vous savez, c'est à cette date que doit être réévaluée une réouverture des théâtres, des cinémas, l'assouplissement du télétravail. Et là-dessus, on n'est pas sur la bonne trajectoire, confie un proche du Premier ministre. Ce sera sans doute aussi l'un des objets de ce Conseil de défense, préparer les esprits un mois de janvier, pas forcément aussi optimiste qu'espéré.
Les informations d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps, la campagne de vaccination se poursuit. Au compte-gouttes, quelques dizaines de pensionnaires d'EHPAD de Lille, Lyon et des environs de Tours. Le gouvernement a fixé l'objectif d'1 million de personnes âgées ou vulnérables vaccinées d'ici fin février. Et pourtant, notre démarrage semble bien lent comparé par exemple aux 800 000 injections déjà réalisées outre-Manche. Victor Dolande, expliquez-nous pourquoi ce démarrage français façon diesel ?
Alors, il faut écarter tout de suite l'argument de la logistique. Elle est la même pour tous les pays d'Europe qui ont commencé leur campagne de vaccination ce week-end. On le sait, c'est compliqué. La nécessité de garder les doses à moins 80 degrés dans des supercongélateurs et de faire ensuite la liaison avec les EHPAD. Mais la France est équipée. Le circuit d'acheminement a même été testé la semaine dernière à Blans. Une des explications pour ce démarrage prudent est plus à rechercher du côté du consentement. La France est en effet le seul pays à recueillir par écrit ou par oral le consentement des résidents d'EHPAD avant la vaccination de manière aussi stricte, et parfois ça prend du temps, surtout quand les résidents sont placés sous tutelle. Pour Jean-Daniel Lelièvre, chef du service d'immunologie à l'hôpital Henri Mondeur de Créteil, cette prudence est nécessaire dans un pays où la défiance vaccinale est aussi forte.
C'est le pays au monde où cette défiance est importante. Il ne s'agit pas de braquer la population contre un vaccin que l'on estime comme étant très important. Donc il est important pour la communauté scientifique et sans doute également pour le gouvernement que les choses se fassent dans les meilleures conditions possibles et qu'on n'ait pas l'impression qu'on vaccine les gens contre leur volonté.
Un chiffre pour bien se rendre compte de cet isolement français par rapport à l'acceptation vaccinale. En Grande-Bretagne, 90% des jeunes filles sont vaccinées contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus. En France, c'est moins de 20%. Donc il ne faudra pas s'étonner des chiffres très faibles de la vaccination en France dans les prochaines semaines, forcément en recul par rapport à certains de nos voisins. Pour bien réussir cette campagne, il est urgent de ne pas se presser, me confie un autre spécialiste des vaccins tout à l'heure.
Merci à vous Victor Dolande. Chez nos voisins, l'Espagne franchit ce soir la barre des 50 000 décès. Et puis cette actualisation en Russie, Moscou reconnaît désormais un total de 186 000 morts, trois fois plus que le bilan officiel jusqu'ici. Ce qui fait de la Russie l'un des pays les plus endeuillés au monde.
Europe 1, le journal de la nuit.
22h passées de 6 minutes sur Europe 1. À la une également ce soir, l'hommage national donc aux trois gendarmes tués mardi dernier par un forcené près d'Ambert dans le Puy-de-Dôme. Trois gendarmes décorés de la Légion d'honneur à titre posthume par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a salué cet après-midi leur sacrifice devant leurs proches et une partie de la population d'Ambert où ils étaient basés.
Trois gendarmes tombés en mission, animés par le service de la France. Trois vies sacrifiées pour en sauver une autre. Et malgré notre peine, il faut le dire, il n'y a pas plus noble sacrifice que celui-là. Le lieutenant Cyril Morel, l'adjudant Rémi Dupuis et le tout jeune brigadier Arnaud Mavel sont allés au bout de leur engagement. Ils ont tout donné, jusqu'à leur vie, pour accomplir leur mission. Parce qu'ils étaient des gendarmes, parce que c'était leur vocation, parce qu'ils étaient intimement convaincus du sens de leur devoir. C'est cela, mesdames, messieurs, être gendarme.
L'hommage de Gérald Darmanin à ces trois gendarmes d'Ambert lors de la cérémonie cet après-midi. Gérald Darmanin, qui avait été parmi les plus hauts responsables politiques à réagir à cette autre affaire en fin de semaine dernière à Belfort. Un jeune homme supposément agressé parce que musulman fêtant Noël et parce que fils de policier, le ministre avait dénoncé une nouvelle démonstration du séparatisme religieux. Sauf que voilà, après quatre jours d'enquête, le procureur de la République de Belfort vient de démentir Marion Dubreuil. L'affaire est en réalité beaucoup plus nuancée.
Oui, même si c'est la photo d'un repas de Noël qui a déclenché les hostilités sur les réseaux sociaux, le différend entre le plaignant et son agresseur présumé, qui se connaissent, relève davantage d'une question d'ego, d'après le procureur de la République de Belfort, que d'une volonté d'imposer à autrui ses convictions religieuses. Il y a bien eu une insulte raciste, sale blanc, au milieu d'un flot d'injures et une référence au métier de policier des parents du plaignant. Mais on est bien loin du guet-apens anti-musulman et anti-flic. Le plaignant s'est rendu de son plein gré au rendez-vous fixé par son contact pour régler ses problèmes comme un homme. Il était d'ailleurs accompagné de deux ou trois personnes dont il refuse de donner les identités. Face à eux, quatre jeunes du même âge, qui a porté le premier coup, les versions s'opposent. Le procureur de la République de Belfort a ouvert une information judiciaire pour établir les circonstances exactes de la rixe.
Marion Dubreuil, que l'on se réjouit de retrouver au service police-justice d'Europe 1. Toujours au volet judiciaire, une enquête pour dégradation de sépulture ouverte à Fontainebleau en Seine-et-Marne après la découverte de 67 tombes recouvertes de croix gammées. La mairie va porter plainte.
Europe 1.
22h08 sur Europe 1, on en vient à l'actualité économique et à ces chiffres du chômage qui repartent à la hausse pour la première fois depuis 6 mois, plus 0,9% en novembre, Olivier Samin, ce qui coïncide avec l'entrée en vigueur du deuxième confinement.
Oui, plus 0,9%, autrement dit 34 400 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois de novembre. On parle là des chômeurs de la catégorie A qui n'ont exercé aucune activité. C'est la première hausse après 6 mois consécutifs de baisse. Le reconfinement à partir de la fin du mois d'octobre y est probablement pour quelque chose. Mais la hausse, cette fois-ci, est beaucoup moins forte que celle qui avait été constatée au moment de l'entrée en vigueur du premier confinement. Entre février et mars, le chômage avait bondi de 7% avec 246 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en un mois. On n'est donc pas dans les mêmes proportions. D'après le ministère du Travail, deux facteurs ont joué dans l'augmentation du mois de novembre. Le premier, c'est un rebond des inscriptions à Pôle emploi, suite par exemple au non-renouvellement d'une mission d'intérim ou d'un CDD. À cela s'ajoute le fait qu'il y a eu moins de sorties de Pôle emploi que les mois précédents, y compris moins de reprises d'activités réduites. Au total, à la fin du mois de novembre, il y avait en France 3 828 000 chômeurs sans aucune activité, soit 10% de plus qu'en février, dernier mois avant le déclenchement de la crise sanitaire.
Olivier Samin, à Marseille, toujours pas de sortie de crise dans la grève des éboueurs, 12e jour, et ce malgré la réquisition des salariés par la préfecture de police, réquisition refusée par les grévistes. Salariés du groupe de Richebourg, ils réclament le départ de deux responsables d'un site local après des accusations de harcèlement. Pendant ce temps, plus de 900 tonnes de déchets s'entassent dans les quartiers nord de Marseille et dans celui du Panier. La métropole d'Aix-Marseille est en train de déployer des bennes à ordures supplémentaires. Plus au nord, dans le Massif central, ce sont des tonnes de flocons qui continuent de s'amonceler. 9 départements toujours en vigilance orange pour le passage de la tempête Bella, du Puy-de-Dôme à l'Aveyron pour la neige et le verglas, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse du Sud pour inondations et vagues submersions, ainsi que le Gers. Ici, c'est pour un risque de crue. De très nombreux foyers sont toujours privés d'électricité. On fait le point avec vous, Jeanne Bergaoui. Où en est-on à 22h11 ce soir ?
Eh bien, pas d'amélioration pour le moment, puisque 25 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Cela concerne encore 10 000 clients sur la façade atlantique et en Auvergne, et puis 15 000 autres en Corrèze. Eux n'ont plus de lumière et de réseau depuis 17 heures, heure à laquelle un poste d'alimentation RTE a lâché. Impossible de savoir quand le courant sera rétabli, malgré des conditions d'accès difficiles. Des techniciens d'Enedis et du gestionnaire de réseau RTE sont toujours à pied d'œuvre ce soir pour tenter de réparer ces pannes. Dès demain matin, des renforts sont attendus de Montauban, de Tours ou encore de Bordeaux. Sur les routes, situation tout aussi compliquée. Certains axes verglacés sont quasiment impraticables. C'est le cas dans le Cantal, sur une portion de l'A75. Et des automobilistes sont à l'arrêt au col de la Fajolle, au niveau de Saint-Flour. Et des restrictions de circulation sont mises en place, avec interdiction aux poids lourds d'emprunter cette autoroute. Restrictions également en Corse, par exemple au col de Vitsavona qui relie Corte à Ajaccio. Eh bien, ce col est totalement interdit à la circulation en raison d'importantes chutes de neige. Prudence donc, mieux vaut rester à la maison, rappellent les préfectures comme les pompiers de ces départements placés en vigilance orange.
Et on suit ces conseils. Les dernières précisions en direct avec vous, Jeanne Bergaoui pour Europe 1. À l'étranger, feu vert pour l'application de l'accord sur le Brexit. À partir de vendredi 1er janvier, les 27 ont accepté son application provisoire en attendant le vote définitif du Parlement européen qui aura lieu très probablement à la fin du mois de février. Et puis on l'a donc appris ce soir, la mort de 3 soldats français en opération au Mali. 3 jeunes soldats du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse. Leur véhicule blindé a sauté lors de son passage sur un engin explosif. Cela porte à 47 le nombre de soldats français morts en opération au Mali depuis 7 ans, dans un pays qui vient de plonger un peu plus en état de choc avec la mort du coronavirus d'un homme qui était devenu le grand espoir d'apaisement politique, Didier François. Soumeila Cissé, ancien otage des islamistes, qui avait été libéré en même temps que la Française Sophie Petronin.
Bah oui, c'est un coup terrible, hein, parce que pratiquement tout le monde en fait, le voyait déjà à la tête du pays à l'issue d'un processus de transition démocratique qui renverrait la junte militaire dans ses casernes. Vous ne vous souveniez peut-être pas de son nom, mais vous n'avez pas oublié les conditions de sa libération. C'était le 9 octobre dernier, en même temps, donc, comme vous l'avez dit, de l'otage française Sophie Petronin. Ils ont été libérés contre la libération de 200 prisonniers djihadistes. Et c'est pour lui que cet accord avait été passé, ce qui en dit long sur l'intérêt et sur la confiance que lui portaient les militaires maliens. On peut donc légitimement penser qu'il considérait Soumaïla Cissé comme un candidat plus que sérieux, capable de prendre la relève et de former un gouvernement civil acceptable à l'issue d'une élection présidentielle qui est promise pour 2022. Le passage de flambeau a été d'autant plus fluide que l'opposition malienne voulait en faire son candidat et que sa popularité était au zénith après 6 mois de détention par les islamistes. Et puis enfin, il bénéficiait d'un préjugé très favorable parmi les chefs d'État de la région. Alors autant vous dire qu'il était considéré comme un élément clé du dispositif de stabilisation, que ce soit d'ailleurs au Mali ou dans la région du Sahel.
Et son décès, on l'a dit, est lié au Covid. Et avec ce qu'on a appris ce soir, la mort de ces 3 nouveaux soldats français, Didier, est-ce que cette disparition peut aussi avoir un impact sur la stratégie française au Mali ?
Alors en fait, c'est sa libération qui avait déjà forcé la France à revoir sa copie, puisque à l'évidence, l'ensemble de la classe politique malienne, et ça comprend les chefs militaires au pouvoir, ont fait le choix de la négociation avec les terroristes et que cela place la force Barkhane dans une situation très délicate. L'armée française ne peut pas durablement mener seule une guerre d'attrition, de destruction de l'ennemi dans une ancienne colonie, alors qu'on a des alliés sur place qui répugnent aussi clairement à assumer les conséquences de ce combat. La question est donc désormais posée de modifier de manière importante le dispositif militaire français, et ça fera dans les mois à venir. Ça va d'abord passer par une réduction des effectifs. Des nouvelles options sont déjà en cours d'études et elles pourraient être rendues publiques au tout début de l'année prochaine.
L'œil de Didier François, notre spécialiste des questions internationales sur Europe 1. On termine avec les sports et Yannick Bestaven toujours bien accroché en tête du Vendée Globe. 150 000 nautiques d'avance au dernier pointage sur un autre Français, Charlie Dalin. En tennis, Roger Federer confirme son forfait pour l'Open d'Australie, première épreuve majeure de l'année. C'est la première fois qu'il la manquera de toute sa carrière, mais il doit encore soigner un genou après une double opération. Enfin, en handball, le Paris Saint-Germain ne verra pas la finale de la Ligue des Champions. Paris est éliminé sèchement par le Barça ce soir en demi, 37 à 32, avec des regrets pour l'arrière parisien Nedim Remili.
Évidemment, quand on perd, on a toujours des regrets. On a essayé de se battre à fond avec les armes qu'on avait aujourd'hui. Malheureusement, voilà, ce qui était peut-être notre meilleure arme, le 7 contre 6, n'a pas marché comme on le voulait. On a pris quoi, 36 ou 37 buts, je ne sais plus. Donc voilà, c'est énorme. Notre défense non plus n'a pas fonctionné. Donc on a des regrets, oui, parce qu'on perd. Après, je trouve qu'on a quand même essayé de se donner à fond, de ne pas lâcher. Jouer pendant 60 minutes, on a donné notre maximum. On a été limité par beaucoup de choses ces derniers temps. On joue dans une salle vide, on a perdu deux joueurs en moins de deux jours. C'était assez rapide. L'absence de Nico aussi est préjudiciable, évidemment. Mais voilà, des regrets pour la défaite, mais pas forcément parce qu'on a quand même tout donné. Et ça, j'apprécie quand même.
Voilà, Paris éliminé sans Nico. Nicolas Karabatic, sa star. Nedim Remili, arrière droit du PSG, joint pour Europe 1 par Axel May. 22h16, la météo. Avec vous, Anissa Haddadi. Et c'est encore du mauvais temps pour demain.
Oui, avec encore demain matin, Théo, sur le nord-est, des chutes de neige à partir de 600 mètres d'altitude. En Alsace, nous aurons même des flocons en plaine. Et puis sur la moitié nord du pays, et en particulier la région parisienne et le centre-val de Loire, demain matin, nous aurons la chance de voir quelques éclaircies. Elles seront timides, mais enfin, elles auront le mérite d'être là. Du Pays Basque jusqu'au Massif central, en passant par le Limousin, donc sur un grand quart sud-ouest du pays, le temps reste gris, avec des averses tout au long de la journée. Au bord de la Méditerranée et en vallée du Rhône, le soleil s'impose de plus en plus au fil des heures. C'est là que la journée sera la plus belle demain. Et puis en Corse, toujours un temps agité. Le vent souffle sur les caps, il neige en montagne et le tonnerre gronde sur l'île de Beauté. Là, c'est vraiment une journée à rester à l'intérieur. Les températures demain matin, elles sont fraîches avec moins 2 degrés à Embrun, moins 1 à Gap et à Murat dans le Cantal. 1 degré à Metz et Rouen, 3 degrés à Paris et à Besançon. 4 à Nice, 6 à La Rochelle et puis au meilleur de la journée, c'est stationnaire quasiment comme aujourd'hui avec 2 à 15 degrés, 6 à Paris, 9 à Bordeaux et jusqu'à 15 degrés à Bastia.
Merci Anissa Haddadi et je vous rappelle ces 9 départements en vigilance orange, notamment dans le massif central du Puy-de-Dôme à l'Aveyron pour d'importantes chutes de neige.
Europe 1.
Vous ne bougez pas, 22h18, dans un instant on fait le point sur les places financières avant l'interview écho d'Emmanuel Dutheil. À tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
Et à 22h19, on fait un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Théo.
Wall Street termine sur des records ce soir. Les marchés saluent la ratification par Donald Trump du plan de relance américain.
Et oui, ce revirement spectaculaire de la part du président américain a fait monter les marchés. Le Dow Jones gagne 0,68%, 30 403 points. Le Nasdaq plus 0,74%, 12 899 points. Ce sont de nouveaux records historiques pour les deux indices. Les investisseurs sont donc soulagés par la décision de Donald Trump de signer ce plan qui doit relancer l'économie américaine. Et puis en Europe, l'accord décroché sur l'après-Brexit a apporte également une bouffée d'air au marché. Les valeurs bancaires très dépendantes de la bonne santé de l'économie sont en hausse, plus 1,5% pour Goldman Sachs, plus 1% pour JP Morgan. Et puis les compagnies aériennes aussi sont en hausse. Le plan de relance prévoit 15 milliards de dollars d'aide au secteur aérien. United Airlines, Delta Airlines et American Airlines progressent de 1 à 3% ce soir. Côté devise, l'euro est stable et s'échange contre 1,2208 $.
À Paris, le CAC 40, Claire Lemaître, démarre bien la semaine grâce là aussi à une série de bonnes nouvelles.
Voilà, c'est du vert grâce au plan de relance américain, à l'accord post-Brexit et aussi aux premières vaccinations contre le coronavirus en France, très très attendues par les investisseurs. Le CAC 40 en profite et gagne 1,2%, 5588 points. Certaines des valeurs les plus touchées par la crise sanitaire montent ce soir, à l'image d'Air France KLM, en hausse de plus de 3%. Et puis Accor, le groupe hôtelier, gagne 0,7%.
Le secteur du luxe, lui aussi, s'est offert une belle séance, Claire Lemaître, avec des valeurs en forte hausse.
Kering, propriétaire de Gucci ou de Saint-Laurent, prend la tête du CAC 40 grâce à une hausse de 3,4%. LVMH, le numéro 1 mondial du secteur, monte de 1,5%. Et puis pour Hermès, c'est un gain ce soir de 2,1%. Ailleurs, en Europe, les marchés ont terminé en hausse. Londres était fermé aujourd'hui pour les fêtes de fin d'année. Francfort gagne 1,5%, Milan plus 0,7%, Madrid plus 0,5%, Amsterdam plus 0,2% et à Paris, le CAC 40 gagne 1,2%, 5588 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet, signé Claire Lemaître de Boursier.com. Et à 22h21 sur Europe 1, lors de l'interview éco, avec vous Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. Et avec vous ce soir, un patron dont les produits sont entrés dans notre quotidien en cette année particulière. Bonsoir à vous.
Bonjour David Martin.
Bonjour, enchanté.
Enchanté, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes l'un des présidents des laboratoires Agnos. Agnos, à l'origine, c'est une entreprise française qui date du 19e siècle. Elle est née à Lille et vous êtes spécialisé dans ce que l'on appelle des produits chimiques biocides, en gros des désinfectants, surtout pour les milieux médicaux. Depuis 2017, vous appartenez à l'américain Ecolab. Nous sommes à 4 jours de l'année 2021. Comment allez-vous et comment s'est passée pour vous l'année qui vient de s'écouler ?
Alors, l'année 2020, c'est quand même une année, on va se souvenir fortement de cette année pour plein de raisons. La demande en besoin hydroalcoolique a explosé depuis presque un an maintenant. Hein. Et il a fallu trouver une solution pour essayer de répondre à ça. Et cette solution-là, c'est d'abord passé par les équipes d'Agnos. Et je prends aussi l'occasion de dire super merci. Hein. Ça a été l'engagement des gens à essayer de se retrousser les manches et essayer de voir comment est-ce qu'on peut multiplier par deux ou trois la production de gel hydroalcoolique, tant la demande était importante. Donc, on a vraiment d'abord passé du temps là-dessus. Et ensuite, évidemment, on a commencé à trouver des façons techniques pour essayer d'augmenter la capacité. Augmenter de la capacité en termes de temps sur les unités de production, mais également trouver des façons aussi d'avoir accès à des éléments extérieurs tels que des composites, des packaging et aussi certains de nos raw materials, donc nos matières premières, pour pouvoir répondre à cette demande.
Justement, on va revenir un petit peu en arrière dans un temps qu'on a presque oublié. Février 2020,
oui.
Comment ça se passe ? Quand là, vous, l'un des patrons d'Agnos, on vous dit, ça y est, l'épidémie est là, les confinements vont arriver, il faut du gel hydroalcoolique. Comment, tout simplement, on s'organise, on réinvente son moyen de production pour, comme vous le disiez, multiplier par 3, par 5, par 10 vos capacités de production en un temps tout simplement record?
Alors, je vais dire, on a eu un petit peu d'expérience il y a quelques temps avec la crise H1N1, hein, et il a fallu gérer ça. Parce qu'on a eu une demande énorme et il a fallu se dire, OK, comment est-ce que je mets en place une flexibilité du travail, une flexibilité de la façon dont on pense les process pour pouvoir répondre à une demande énorme dont on ne sait même pas quand cette réponse va se terminer. Donc en fait, ça a été vraiment une idée que l'on a eue, c'est-à-dire de véritablement mettre en place un travail d'équipe pour réfléchir à ça.
Alors, quand on est l'un des patrons d'un des plus grands laboratoires de fabrication de gel hydroalcoolique, au moment où la crise démarre, quelle est votre priorité ? C'est quoi ? Il faut s'approvisionner en matières premières, en machines, en personnel ? C'est quoi la priorité ?
La première priorité qu'on a eue, c'est pour qui va le gel ?
Ah ouais.
Ça a été ça, la priorité numéro un. Et donc, on s'est dit, comment est-ce que je prioritise ? Parce que, évidemment, les gels, on l'utilise un peu partout. Hein. Ça a été les hôpitaux, le secteur santé, priorité numéro un. Donc, il a fallu que pour certains de nos clients, dire non, on ne pouvait pas livrer parce qu'on allait garder ça pour le secteur santé. Ça a été ça, en fait, la première chose.
Donc la première chose, c'est à qui on s'adresse.
Oui.
Et là, c'était pour les hôpitaux, pour les soignants.
Absolument.
Et donc, vous avez doublé la cadence. Vous avez fait quoi ?
Aujourd'hui, on a augmenté de 200% la production par rapport à ce qu'on avait fait fin d'année dernière.
Ah oui, donc c'est tout simplement impressionnant. Comment, malgré tout, alors là aussi, ça paraît un ancien temps, mais comment vous expliquez qu'on ait tant manqué de gel hydroalcoolique ? C'est quand même assez facile à produire. Vous le disiez, on avait eu une sorte d'entraînement avec la grippe H1N1. Mmh. Comment vous expliquez qu'on se soit, à ce point-là, collectivement, hein, je n'implique pas obligatoirement Agnos, mais planté, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le démarrage.
Je pense que, vous savez, quand on opère une boîte, quand on travaille dans une industrie, quand on travaille dans un hôpital, mais quand on travaille dans une industrie, quand on travaille, quand on va, je ne sais pas, à un supermarché, l'hygiène, ce n'est pas nécessairement quelque chose auquel les gens pensaient vraiment. Et ensuite, quelles sont les bonnes pratiques, donc les bonnes façons d'être hygiénique ? Mmh. Hein ? On va pouvoir parler des mains sans doute aujourd'hui et parler de... Ce n'est pas uniquement le produit, mais c'est la façon dont on l'applique. Et donc, en fait, ce qui est clair, c'est que la demande d'hygiène et le besoin d'avoir un environnement sain, tant dans un hôpital que dans une industrie, que tant au supermarché, devient critique. Les gens ont vraiment commencé à se dire « Tiens, il faut vraiment que je fasse attention à l'hygiène. » Et c'est ça, ensuite, qui a conduit à la demande qui a explosé.
Quels ont été vos liens avec les autorités françaises à ce moment-là pour faire face à la demande ?
Sincèrement, je trouve que les autorités françaises ont été, de toutes les autorités avec lesquelles nous travaillons, étaient super collaboratrices. On a travaillé essentiellement avec les DGE, Direction Générale des Entreprises, et on avait un call avec eux, on va dire, journalièrement,
pour
qu'ils comprennent ce qui nous limite, d'accord ? Et comment eux, ils peuvent nous aider.
Mais ce que vous nous dites, c'est que vous avez l'impression que c'était mieux organisé d'une certaine manière chez nous, par rapport à qui, par exemple, vous êtes présent en Allemagne, vous êtes présent dans de nombreux pays, donc par rapport à où ?
Belgique.
Par rapport à d'autres pays, je veux dire la Belgique étant un exemple, par exemple, où là, vraiment, avec la DGE, alors vous savez, la France, elle est connue pour toute son administration un petit peu compliquée, qui est responsable de
qu'on
quoi ?
Qu'on a c'est beaucoup pas si décrié simple. Pendant cette crise.
Ah, puis force est de constater qu'il y a eu quelques ratés, quand même.
Peut-être il y en a eu, mais en tout cas, je peux vous dire qu'une force que la France a, c'est la France aime bien la crise, sait comment gérer ce genre de choses-là.
Un grand merci David de Martin, responsable le marché France et Belgique pour les laboratoires Agnos. Merci également à vous Elisabeth Assayag. On se retrouve demain et je crois pouvoir dire que demain c'est une émission qui vous fait particulièrement plaisir. On sera avec Vanessa Bruno, la créatrice de mode.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil et merci à vous Elisabeth Assayag. À demain donc, La France bouge, 13h-14h sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. À la une de vos quotidiens demain matin, inévitable, point d'interrogation, l'hypothèse d'un troisième confinement à la une du Dauphiné libéré, alors qu'un nouveau conseil de défense se réunira à l'Élysée. Malgré l'espoir que fait naître le début de la campagne de vaccination, l'inquiétude quant à une troisième vague grandit à nouveau en France, écrit le journal. Il dresse l'ensemble des pistes à l'étude, reconfinement localisé ou encore couvre-feu renforcé. Comment le Covid a changé les entreprises ? À la une des Échos qui saluent, eux, la réactivité avec un saut considérable réalisé dans la digitalisation. Réunion à distance, télétravail, cette crise laissera en revanche des traces structurelles durables, tempère le quotidien économique, qui passe tous les secteurs en revue, de l'auto à l'immobilier, en passant par le commerce et la médecine. L'hôpital psy, lui aussi, secoué par le Covid, c'est à la une de Ouest-France qui se demande du malheur quel bien sortira-t-il, avec ce reportage dans l'unité psychiatrique d'un hôpital de Nantes où les incidences du Covid, confinement, déconfinement ont beaucoup contraint les patients et le personnel à s'adapter avec des moyens déjà ric-rac, nous dit Ouest-France. Pas de vague dans le service actuellement, mais après le premier déconfinement, l'été avait été très compliqué. Désormais, le printemps 2021 est lui aussi redouté. En politique, bon sens ne saurait mentir, interroge l'opinion, qui passe en revue les déclarations de la classe politique française, des populistes aux représentants de la droite, en passant désormais par l'exécutif. Tous revendiquent d'agir avec bon sens. La formule a pourtant ses limites, analyse le journal, qui passe au crible les déclarations, notamment de Jean Castex, du patron des Républicains, Christian Jacob, jusqu'à Marine Le Pen au Rassemblement National.
22h30 pour Europe 1. Voilà pour quelques-unes des unes de vos journaux de demain. Vous avez rendez-vous tout de suite avec la Libre Antenne et Olivier Delacroix qui s'installe. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Théo.
On est ensemble avec vous jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et dès maintenant, vous pouvez composer le 3921 pour nous parler ce soir. Car comme vous venez de le dire Théo, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Et nous, on se retrouve pour le flash dans une petite demi-heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.